Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Sylvie Nicéphore, qui est musicologue, qui est danseuse, qui est chanteuse lyrique, qui est pianiste. Voilà, excusez-moi du peu. Eh bien, elle va nous parler de quoi ? Elle va nous parler aujourd'hui. Je l'avais déjà reçue pour l'histoire du piano. On avait fait une émission sur l'histoire du piano qui était très intéressante. Et là, je les réinvite. Et nous allons parler de la danse, et plus particulièrement de la danse baroque, sous Louis XIV, donc. Et alors, évidemment, je vais lire une page de ma poésie française, comme d'habitude. Florilège critique et passionné de notre poésie des origines à nos jours. Et je suis tombé, comme nous sommes avec Ronsard depuis quelques émissions, je suis tombé sur deux poèmes qui sont très, très beaux et qui ont trait à la danse. Justement, là, ce n'est pas du hasard, c'est de la providence vraiment qui nous sert aujourd'hui. Eh bien, je commence à lire et après, nous donnerons la parole à Sylvie Nicéphore. Nous passerons allègrement sur nombre de milliardises qui ont fait la célébrité de Ronsard et qui conversent sous la houlette facile du carpe diem d'Horace, c'est-à-dire cueille le jour, et la menace de la fuite du temps, à la naturelle débauche de mignonnes et de mignonnettes par un barbon. Thème éternel qu'on retrouvera entre autres sous la plume du vieux Corneille, marquise aussi mon visage à quelques traits un peu vieux. Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Ça a été mis en musique par Brassens, comme chacun sait. Nous préférons étudier ce poème descriptif tiré du second livre des sonnets pour Hélène. Le soir qu'amour vous fit dans la salle descendre pour danser d'artifice un beau ballet d'amour, vos yeux, bien qu'il fût nuit, ramenèrent le jour, tant ils surent d'éclair par la place répandre. Bon, ça, c'est une image bien connue que nous avons rencontrée pas mal de fois, que nous allons encore rencontrer, c'est-à-dire les yeux de la belle rivalisent avec le soleil et ramènent le jour en pleine nuit. Voilà, c'est assez banal, finalement. Le ballet fut divin, qui se souloua, c'est-à-dire qui avait coutume de reprendre, se rompre, se refaire, et tout dessus retour, se mêler, s'escarter, se tourner alentour, comme imitant le cours du fleuve de méandre. Or, or ça veut dire tantôt, or il est toi rond, or long, or étroit, or en pointe en triangle, à la façon qu'on voit l'escadron de la grue, évitant la froidure. Et ça, c'est une très jolie image. On dira plutôt aujourd'hui escadrille qu'escadron. Mais ce triangle de grue qui comparé à un triangle dans un ballet, c'est magnifique, vraiment. Je faux, c'est-à-dire je me trompe, j'ai tort. Tu ne dansois, mais ton pied vole-toi sur le haut de la terre. Ainsi ton corps s'estoie transformé pour ce soir en divine nature. Ici se déploie sans aucun doute le meilleur du talent de Ronsard, car s'il manque trop souvent de gravité, il est à l'évidence un maître du rythme, voire un danseur. On s'en persuadera par cet extrait de la Charité, qui a priori n'est qu'une de ces trop nombreuses flagorneries du poète courtisan, ici adressée à l'unique perle, Marguerite de France, Roanne de Navarre, sœur du roi, mais qui recèle cette autre perle chorégraphique. Bon, ici, Ronsard, évidemment, je joue sur le mot perle et Marguerite qui veut dire perle aussi. Dedans la salle, une odoreuse nue, c'est-à-dire une odorante vapeur, pleine de musc et d'ambre s'expandit. Par tel miracle, un chacun entendit qu'une déesse au bal est-soit venue. Comme un soleil sans rompre la verrière, passe en la chambre ondoyante et pointue, sans que l'objet empêche la vertu de sa divine et perçante lumière. Alors là, c'est une image qu'on a rencontrée souvent au Moyen-Âge, chez Chrétien de Troyes, dans la quête du Saint-Graal, et chez Rudebeuf également, et bien ailleurs. Il s'agit de l'allusion à la virginité de la Vierge, bien entendu, qui comme une lumière traversant une vitre, ne l'abîme pas, ne la corrompt pas. Très belle image aussi. Si bien que mon roi, d'un jugement extrême, bien clairvoyant, germe des dieux conçus, il fut premier en la voyant déçue, pensant au vrai que ce fût sa sœur même. Serrant sa main, la conduite à la danse, comme une femme, elle ne marchoit pas, mais en roulant divinement le pas, d'un pied glissant, couloit à la cadence. L'homme, pesant, marche dessus la place, mais un dieu vole et ne s'en roit aller, au dieu léger appartient le voler, comme engendré d'une éternelle race. Le roi dansant la volte provençale, fais-oie sauter la charité sa sœur, elle suivant d'une grave douceur, à bond léger, voloie parmi la salle. Ainsi qu'on voit aux grasses nuits d'automne un prompt ardent, c'est-à-dire un feu follet, sur les eaux éclairées, tantôt de ça, tantôt de la virée, et nul repos à sa flamme ne donne. Elle changeoie en sang métamorphose le cœur de ceux qui son front regardoient, main trait de feu de ses yeux descendoient, et sous ses pieds faisoie naître des roses. Alors voilà, Sylvie, vous avez apprécié, j'espère, cette musique.
Bien sûr, d'autant plus que c'est un grand tube de la musique et de la danse renaissance. Il s'agit d'une pavane. La pavane étant une danse noble, une danse d'apparat.
De Toineau Arbaud, hein, c'est ça.
Voilà. L'auteur, c'est Toineau Arbaud. C'est un compositeur de musique à danser, tout comme l'était Praetorius ou Athénion. La pavane est une danse noble, majestueuse, solennelle, une danse d'apparat qui se danse dans les cours à la Renaissance. Et nous connaissons Toineau Arbaud de son vrai nom Jean Taboureau.
Ah d'accord.
Oui, et pour la curiosité, c'est un chanoine. Hein,
c'est un Français.
C'est un Français, c'est oui, un chanoine.
Il a un nom bien français d'ailleurs.
Tout à fait. Ouais. Et nous le connaissons surtout parce qu'il nous a légué un traité très incontournable pour qui veut connaître les danses qui étaient dansées à la Renaissance en France. Ce traité se nomme le traité de l'orchésographie.
Ouais.
Il est extrêmement détaillé et disons que c'est un des plus complets que nous ayons sur cette période. Ah, alors il décrit toutes les danses de bal, de cour, voilà. Et évidemment, cette tradition qui existe à la Renaissance va se poursuivre au siècle suivant.
Voilà, dont on va parler spécialement.
Voilà.
Et ce traité est trouvable, il était réédité,
tout à fait.
Etc.
Bon, tout
d'accord,
à fait.
Très
oui.
Bien. Ben, on le consultera, je vais l'acheter. Moi,
c'est une mine de renseignements.
Oui, oui.
Voilà. En plus, il est très bien écrit, c'est sous forme de dialogue socratique entre un maître et un élève.
Ah, c'est fou.
Alors avec beaucoup de considérations philosophiques sur l'art de la danse.
Très
voilà.
Bien, merveilleux. Alors, eh bien, continuez, écoutez, c'est vraiment, moi je vais me taire respectueusement et poser quelques questions éventuelles, voilà.
Alors, qu'appelons-nous danse baroque aujourd'hui? Eh bien, la danse baroque, c'est l'ancêtre de la danse classique, hein, cette danse classique académique qui est dansée dans le monde entier aujourd'hui par les plus grands ballets sur les plus grandes scènes. Et les bases de cette danse ont été fixées par Pierre Beauchamp, qui est né en 1631, mort en 1705. Et Pierre Beauchamp était chorégraphe, maître à danser, danseur, né dans une dynastie d'artistes. Et il a posé toutes les bases techniques, toutes les règles de cette danse dont nous héritons aujourd'hui. Alors, c'était un maître à danser absolument incontournable à son époque, puisqu'il a formé de nombreux danseurs de grand talent, donc, dont notamment Guillaume Pécourt, qui nous a laissé des recueils de compositions chorégraphiques, et également Raoul Feuillet, qui est connu non seulement pour ses chorégraphies, mais pour être le père de la notation chorégraphique, cette fameuse notation de la danse sur partition, tout comme la musique, grâce à laquelle nous pouvons accéder à ces danses, nous pouvons les lire et nous pouvons les redanser et les faire.
C'est merveilleux, ça, et c'est très peu connu, ça, les notations chorégraphiques.
Absolument, ouais. Puisque...
Moi, je me souviens, j'ai un peu travaillé avec une danseuse, j'ai fait un tour de France avec une danseuse, du Merskuningam Ballet, mais je voyais bien comment se déroulait la danse et des leçons de chorégraphie d'un professeur de danse, par exemple, mais j'ai jamais vu des écrits, j'ai jamais lu des écrits.
Alors, la notation chorégraphique existe, on connaît aujourd'hui la notation Laban, par exemple, mais à cette époque, c'était tout à fait nouveau, novateur. Ouais. Alors, on a vraiment beaucoup travaillé sur ce projet-là, c'est Louis XIV qui a lancé un projet de notation. Ouais. Tous les maîtres à danser de l'époque ont travaillé sur le sujet, ont proposé leur système de notation. Il y en a qui étaient très très intéressants. Puis finalement, se sont mis d'accord pour adopter le fameux système Feuillet, qui est un système de notation très complet, parce qu'on peut avoir une idée de l'ensemble de la chorégraphie avec la partition musicale. Et tous les détails des pas, des mouvements, ce qui permet une analyse du mouvement et ce qui permet une reconstitution de ces danses le plus exactement possible.
Ouais.
Donc ça fait partie des grands élèves de Pierre Beauchamp, mais surtout l'élève le plus célèbre de Pierre Beauchamp, c'est le roi lui-même.
Louis XIV.
C'est Louis XIV
qui était un
très grand danseur et qui a dansé, qui a travaillé avec Pierre Beauchamp pendant 20 ans, ce qui n'est pas rien.
Il a commencé à quel âge à peu près?
Alors Louis XIV a commencé dans l'enfance, ce qui a d'ailleurs été préconisé par les maîtres de danse. Il disait qu'il fallait commencer tôt. Mais il n'a pas commencé avec Beauchamp. D'accord. C'est Beauchamp qui l'a perfectionné, qu'il a eu en main pendant 20 ans. Mmh. Et le roi était un danseur tout à fait assidu. Ouais. Il travaillait tous les jours et il y a des écrits qui disent même qu'il travaillait jusqu'à épuisement. Et pour des raisons très précises, c'est que la danse, comme nous allons le voir, était très 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 présente à la cour.
Ouais.
Alors, c'est une danse donc qui est que nous connaissons aussi grâce à un traité très important, incontournable, dont nous avons fêté l'année dernière le tricentenaire. C'est le traité de Pierre Rameau qui s'appelle « Le maître à danser ».
Pierre Rameau, c'est le frère du Rameau.
Non, justement, ça n'a pas grand lien avec le musicien. C'est un personnage différent. Pierre Rameau, qui est maître à danser, qui est chorégraphe, et qui écrit un traité. Alors, il n'est pas le seul à en écrire, parce que c'est une époque où on écrit beaucoup sur la danse, mais disons que son traité est des plus complets pour qui veut vraiment connaître d'abord toutes les danses, et non seulement ça, mais tout le vocabulaire de la danse, la description de tous les pas, la manière de bien les danser, tous les conseils qu'il peut donner aux danseurs, sans compter des renseignements sur l'enseignement de la danse. Donc c'est vraiment un ouvrage incontournable, tout comme l'était le traité de l'orchésiographie au siècle précédent. Alors, pourquoi dit-on baroque? Parce que finalement, c'est une danse qui est dansée à partir du deuxième tiers du XVIIe siècle jusqu'à la mi-XVIIIe, et que le terme baroque est généralement usité pour désigner la musique composée aussi à cette époque-là. Or, c'est un terme qui est assez contemporain, parce que ça fait seulement 50 ans qu'on l'utilise.
L'architecture aussi. Ça,
oui, c'est ça. Alors, c'est un terme qui concerne beaucoup plus l'architecture, les arts visuels, les arts théâtraux. Et nous, on l'applique à la musique, finalement, depuis 50 ans, pour désigner un certain type de production musicale. Mais avant, on parlait de préclassicisme. Alors, en ce qui concerne cette danse, c'est assez ambigu parce qu'elle est française, elle est versaillaise, elle pousse dans un environnement classique de par l'architecture, de par l'art du jardin. Et dans ses formes chorégraphiques, je dirais qu'elle est très classique parce que les formes sont équilibrées, sont proportionnées, sont symétriques. On prône l'élégance et la sobriété dans cette danse. Donc, de par ce fait, elle peut être qualifiée de classique. Mais aussi, elle évolue sur scène, dans des mises en scène qui sont faites de fantasmagories, de trompe-l'œil, des faits absolument extraordinaires, ouais, et qui sont baroques d'esthétique.
Qui touchent d'ailleurs à ce qu'on cherche depuis toujours. C'est le spectacle complet, d'ailleurs. Hein.
Tout
c'est...
à fait. Voilà. Et puis cette danse, c'est une danse de mouvement. Il n'y a rien de statique. On bouge beaucoup. On circule sur des courbes, sur des. On pratique beaucoup la courbe.
Le méandre dont parle le poème de tout à l'heure.
Oui, les poignets on fait des ronds de coudes, on fait des ronds de jambes, on fait des mouvements giratoires, il y a beaucoup de rotation, beaucoup de circularité, beaucoup de mouvements, ce qui fait que
excusez-moi, on utilise beaucoup les mains, voilà, alors que dans la danse classique, non. Ça a été oublié complètement.
Tout à fait. Alors, je dirais que c'est une danse plus riche. Du point de vue du vocabulaire et des combinaisons, c'est une danse plus riche que ne l'est aujourd'hui la danse classique, qui a quand même enlevé un certain nombre de pas, tout en ayant conservé quand même beaucoup de choses. Elle est plus riche, elle est plus complexe, elle a des chorégraphies plus compliquées, je dirais. Hein. Il y a rien d'automatique dans ces chorégraphies, ni de répétitif. Et de par ce fait, oui, elle est baroque parce qu'elle est déjà un petit peu complexe. Voilà. Alors... À l'époque, on ne l'appelle ni classique, ni baroque, on lui donne des noms. Alors les théoriciens en parlent en la nommant par plusieurs noms. Et ça, c'est intéressant d'approfondir pour essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Ouais. Alors par exemple, ils parlent de danse noble. Alors pourquoi elle est noble ? Ça, il y a plusieurs explications. Parce que... D'abord, elle est professionnalisée. Alors, ça ne veut pas dire que les professionnels de la danse n'existaient pas avant, puisque les maîtres à danser, qui étaient eux-mêmes chorégraphes, danseurs, organisations de spectacles, depuis la Renaissance et même bien avant, étaient déjà professionnalisés. Mais on crée évidemment une troupe de danse. Elle est institutionnalisée par la création de l'Académie royale de danse, par Louis XIV lui-même. C'est en 1660, je crois, dans ces années-là. Et de par ce fait, elle gagne ses lettres de noblesse parmi les arts. Hein, elle est considérée comme un art d'un niveau aussi élevé que les autres. Hein, oui. Donc elle a ses lettres de noblesse.
Oui, parce que l'Académie française a été créée bien avant. Par Richelieu, je crois.
Voilà. Donc, le terme noble renvoie aussi à son esthétique. On y prône l'élégance, des gestes, des postures, des mouvements. Il y a une somptuosité dans les vêtements, dans les costumes de scène. Il y a une magnificence dans ces cadres d'exercice. Et tout ça contribue à une élévation. Le danseur danse sur demi-pointe. Il est déjà élevé, il est déjà allégé de par sa posture. Danse noble aussi parce qu'elle est dansée par la noblesse. Alors je dirais que c'est un marqueur social, c'est la danse de la cour, hein. C'est celle qui est pratiquée par la cour.
Et oui, de parce ce qu'évidemment, point de vue, tout le monde danse, les paysans dansent aussi, bien sûr.
Oui.
Les ouvriers, il n'y en a pas beaucoup encore, la classe populaire danse aussi, mais c'est très différent. Quoi.
Très différent. Et c'est là peut-être qu'on a voulu marquer une différence entre cette danse noble, qui est dansé à la cour, qui est déjà académique, qui est déjà travaillé, qui est l'ancêtre de notre danse classique, bien sûr, et celle qui est dansée dans les villages. Et cette démarcation, c'est quand même une nouveauté, parce qu'au siècle précédent, si on se penche un peu sur le traité d'orchésographie de Toineau Arbaud, on va se rendre compte que, bien sûr, il y a des danses nobles, la pavane, la basse danse, ce sont des danses d'apparat nobles, mais qu'en général, la cour danse finalement... des répertoires que l'on peut aussi trouver dans la culture populaire. Ouais. Simplement, elle les danse avec élégance, avec apparat, avec des beaux costumes, etc. Mais en réalité, du point de vue strict du vocabulaire, il n'y a pas tant de différenciation entre les danses de cour et les danses de village. Mais là, c'est vraiment deux mondes différents. Il y a vraiment une démarcation.
Et c'est ça. Et les danses populaires, c'est quoi ? C'est rigodon ?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a ? La bourrée ?
Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces intitulés, la bourrée, la gigue, le rigodon, le passe-pied, etc., voilà, sont aussi des intitulés de danses de cour. C'est-à-dire que la danse de cour pratique des danses qui se nomment la gigue, etc. Mais elle les danse différemment.
À sa façon.
Différemment. C'est vraiment le vocabulaire qui est différent. Et là, il y a vraiment un fossé. C'est pour ça qu'on tient à préciser qu'il s'agit de danse noble. Hein, ouais. Parce que vraiment, d'accord. Elle évolue dans un certain cadre. Alors ensuite...
Danse d'école. Alors.
Oui. Alors danse d'école parce qu'elle s'apprend. Hein, il est impossible de la danser si on n'a pas été formé. Hein, ouais. Elle s'apprend auprès d'un maître à danser. Et durant parfois de longues années, le maître danser, c'est quelqu'un qui suit le pratiquant de danse, hein, qui l'accompagne dans son évolution et qui est un personnage incontournable et indispensable à la cour et dans les familles. Alors, on l'apprend. Et évidemment, on y progresse, on s'y perfectionne. C'est vraiment une danse académique, une danse qui nécessite du travail et dont la tradition va se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on l'appelle danse d'école. Ensuite, on l'appelle aussi danse savante. Alors ça revient assez souvent. Savante, parce que déjà, elle est notée. Hein, elle est sur partition, tout comme la musique. Hein. Elle est savante aussi parce qu'elle est quand même complexe. Hein. C'est un vocabulaire qui n'est pas évident à assimiler, qui fait appel à la mémoire. Les chorégraphies sont quand même très, très formellement, très élaborées. Voilà, on dit qu'elle est savante et aussi parce qu'elle est l'objet d'écrits, de traités, de manuels pédagogiques. Voilà, on s'y intéresse. Ensuite, on l'appelle aussi la danse simple. Alors ça, c'est plutôt un terme qui apparaît au 18e, au moment où il y a une grande polémique dans la danse. C'est l'avant-novaire. Alors la danse simple, parce qu'on l'oppose à la danse en action. Alors ça, c'est tout un débat. Danse simple, parce qu'elle n'a pas d'autre but que de se représenter elle-même. Mmh. C'est une œuvre d'art en soi, que l'on admire pour ses formes. Et la danse en action...
C'est presque l'art pour l'art.
L'art pour l'art, exactement. Ouais. Hein, c'est comme ce qu'on dirait, on dirait aussi la musique pure en parlant de musique. D'accord. Et la danse en action, c'est une danse qui a pour objectif de raconter quelque chose, narrer, et dont la danse en action va faire appel au mime, à la théâtralité, à la créativité.
Histoire,
et donc, à l'époque, on prône une rupture dans la danse, enfin, tout en conservant bien sûr les traditions d'école, mais on a un nouveau regard sur la danse qui est un regard 18e-iste, si je dois dire. Le danseur doit faire passer les émotions, il doit pouvoir s'exprimer, il doit pouvoir être créatif, il doit pouvoir se libérer quand même de ce carcan académique et pour exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Et donc là, on va changer, hein, c'est l'avant-novaire et là, c'est le regard sur la danse qui va être modifié. Donc on va opposer la danse simple à la danse en action. Et ensuite, on l'appelle, évidemment, plus usuellement, la belle danse. Mmh. Alors là, c'est tout dit. Quand on dit belle danse, c'est comme quand on dit bel canto pour le chant. Le beau chant qui est chanté avec du beau son, une belle voix, avec une belle ornementation, avec une juste expression. Eh bien, pour la danse, la belle danse, c'est celle qui a des beaux gestes, qui a des beaux mouvements, qui représente le beau, qui est magnifié. Et c'est un plaisir de l'œil. Hein, voilà. Et elle se représente elle-même dans ses formes. D'accord. Voilà. Alors, c'est devenu un art qui se travaille, qui atteint un haut niveau, ce qui suscite la création par Louis XIV, lui-même très grand danseur de l'Académie royale. Voilà. Donc, c'est un art qui va être officialisé, institutionnalisé, et dont aujourd'hui nous sommes les héritiers via l'Opéra de Paris.
Dites-moi, une question. À la cour, finalement, comment se déroulaient ce sont des balles,
Voilà.
Alors les essentiellement, balles, c'est la qu'on danse en public en tout cas.
Tout à fait. Alors les balles de cour sont fréquents, on danse beaucoup. C'est une cour
qui est
tout le temps en mouvement, qui est tout le temps en train de danser. Alors ces balles peuvent être très longs, d'où l'importance d'y avoir été préparé physiquement. Parce que c'est quand même long.
Une épreuve.
Oui, tout à fait. Et ces balles sont décrites dans le traité de Pierre Rameau, le maître à danser. on y danse évidemment des danses de cour selon un certain ordre, et c'est surtout un bal qui est extrêmement contrôlé, qui est très codé. Il y a des protocoles à respecter, il y a des révérences, des salutations, il y a une manière de marcher, il y a une manière de se déplacer.
On connaît un petit peu, enfin au moins dans les films et les imitations tardives, de ces ronds de chapeau, par exemple, quand on salue une dame ou une personnalité. Et c'est presque une danse, hein, finalement.
Tout à fait. Et d'ailleurs, tous ces gestes sociaux, hein, ôter son chapeau, saluer, faire la révérence, deviennent des gestes chorégraphiques parce qu'ils sont enseignés dans les cours de danse et ils sont magnifiés. Voilà. C'est comme la marche, par exemple. Marcher, c'est naturel.
Oui.
Mais lorsque Pierre Rameau en parle dans son traité, on se rend compte que les gens travaillent leur marche.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, il faut marcher avec les pieds tournés en dehors, avec les jambes tendues, avec un très bon placement du dos, avec une
un port de tête.
Voilà, le port de tête est très important parce que Pierre Rameau dit que ça donne du caractère à la personne que de savoir porter sa tête.
Ouais.
Donc tout ça est travaillé par les maîtres à danser qui sont des éducateurs.
Ouais.
Et c'est très important de maîtriser tous les codes et toutes les danses pour pouvoir danser à la cour. Car si on est mauvais danseur, si on ne connaît pas les codes, si on est maladroit à la danse, on ne peut pas s'intégrer, on ne peut pas participer à ces bals qui sont très importants du point de vue de la vie sociale.
Oui,
et on est exclu hein, si on n'est pas bon danseur.
Ouais.
De plus, la figure centrale du bal, c'est le roi. Et c'est lui qui gouverne le bal en quelque sorte. Mmh. Et à un moment donné dans ces bals, tout le monde va être vu, toute la cour sera vue, mais tout le monde sera vu par le roi. Et ça, c'est important d'être vu par le roi. Et dans ces bals, on danse face à ce qu'on appelle une présence.
Mmh.
Alors, on trouve aussi la présence dans les danses de scène. On danse toujours face à la présence. C'est quoi la présence? C'est un regard. C'est lequel? C'est celui du roi.
Ouais.
On danse face à lui, sous son œil. Et comme il est excellent danseur, eh bien, on a intérêt à se montrer à la hauteur.
Ouais.
Hein, voilà.
Alors, ça veut dire qu'on ne le tourne pas le dos jamais pendant
Alors,
la danse.
Pendant la danse, oui. C'est-à-dire que c'est une danse où on peut danser de dos, on peut danser de profil, contrairement au classique d'ailleurs. Mais on a beaucoup de directions. Mais il y a un point d'ancrage, si vous voulez.
Ouais.
Il y a une direction dans la danse. Et on danse face à ce qu'on appelle la présence.
Ouais, c'est le nord, le nord finalement.
Si vous voulez, oui, c'est ça. Alors, parler de ces danses, évidemment, c'est de la danse sociale et c'est aussi un enjeu politique. Parce que lorsque l'on invite des personnalités étrangères et qu'ils voient ces bals, ils peuvent apprécier le niveau atteint par la cour de Versailles dans les arts.
Ouais.
Ces bals sont quand même extrêmement réglés, ils sont même un peu ennuyeux parce qu'ils sont toujours un petit peu, ils se déroulent toujours selon les mêmes formes, et ils sont très codés, très, très réglés, tout le monde sait danser, et c'est un spectacle en soi, et c'est très valorisant, je dirais, pour la politique culturelle de Louis XIV.
Ouais.
Alors, je pense que nous pourrions écouter un petit extrait musical qui se nomme « Les caractères de la danse ». Alors, c'est une symphonie de danse qui a été écrite par Jean Ferry Rebelle. Alors, c'est un spectacle, mais qui est fait d'une suite de danses qui a un petit peu le caractère des danses que l'on dansait dans la cour.
D'accord.
Voilà, on peut écouter un petit extrait.
On écoute ça. D'accord.
Oui.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
dans cette succession, je vais vous donner juste l'ordre, on trouve une courante, un menuet, une bourrée, une chaconne, une sarabande, oui, une gigue, un rigodon, un passe-pied, une gavotte, une lourde, une musette.
Une lourde.
Une lourde, ah ouais. Oui, et une musette. Alors ça, ce sont des danses...
C'est magnifique, les termes sont magnifiques.
C'est très beau, oui, oui, oui. Ce sont des danses dansées à la cour, avec une danse reine quand même, il faut en parler, c'est le menuet.
Ah,
le
oui,
menuet, c'est vraiment un incontournable. D'ailleurs, le bourgeois gentilhomme...
Oui, parlons-en du bourgeois gentilhomme qui apprend
bon
la
Monsieur
danse
Jourdain.
Parmi tant d'autres choses.
Il veut singer la noblesse et pour ce, il prend des cours de danse avec un maître à danser.
Voilà.
Et évidemment, on insiste sur le menuet parce que c'est vraiment le menuet, la danse reine.
Par excellence. Ouais.
Et ça va se prolonger au XVIIIe où le menuet sera très, très pratiqué.
Ouais.
Alors, sous Louis XVI, il va changer un petit peu de forme et puis le tempo musical va ralentir, mais c'est vraiment une danse qui s'impose. Voilà.
Louis XVI n'était pas danseur, lui.
Non, enfin...
C'était un grand chasseur.
Oui, mais... oui, oui. Ouais. Oh, il avait dû quand même pratiquer la danse et les arts, parce que c'était quand même l'éducation des nobles. Mais évidemment, ça n'était pas Louis XIV dont nous allons parler maintenant. Ouais. Alors, il y a à la cour, évidemment, toute cette danse de bal qui est indispensable hein, à tout courtisan qui se respecte. Alors, juste pour dire qu'après, au XVIIIe, les bals vont perdurer, bien sûr, mais ils vont se déplacer vers Paris. On va plutôt danser à Paris. Il y aura le grand bal de l'opéra qui est très prisé. Puis après, on va voir foisonner une multitude de bals à Paris où on va danser les contredanses. Alors là, on est déjà au XVIIIe
siècle. L'opéra, c'est avant l'opéra, bien sûr.
Oui, alors c'est dans
Ça se passe à Versailles aussi ?
Non, ça se passe à Paris.
Ah d'accord.
Et
dans quelle salle ?
Et c'est... alors c'est... Voilà, c'est dans une salle, je crois que c'est dans un théâtre qui est aménagé en salle de danse.
D'accord.
Bon, il faudrait que je retrouve les gravures, parce que ça a été peint.
L'opéra de Paris, c'est sous Napoléon III.
Oui, voilà, tout à fait.
Ouais.
Et donc, on va dans les bals parisiens, on va danser beaucoup les contredanses, on va y danser masqué, et effectivement, le masque va permettre certaines libertés. Donc, petit à petit, ces bals vont devenir un petit peu plus libres que ce qu'ils étaient sous la cour de Louis XIV, sachant que la danse baroque dont nous parlons a été pratiquée finalement sous Louis XIV et sous Louis XV, hein, pour être plus précis. Alors, on ne pratique pas qu'au bal et dans le palais, on pratique à la scène. Il y a l'espace scénique est très sollicité. C'est ce qu'on appelle la danse de spectacle. Il y a deux fonctions pour la danse. Il y a la danse sociale, qui est pratiquée au bal, et il y a la danse spectacle, qui est un divertissement fait pour le bonheur.
Sur la scène et pour un public.
Voilà. Ouais. Alors, la danse de spectacle, elle est composée, bien sûr, par des chorégraphes, et alors là, elle est dansée par les meilleurs danseurs de la cour. C'est-à-dire, pour danser dans la danse spectacle, il faut vraiment avoir un très bon niveau, hein. Et c'est là l'antichambre du professionnalisme, puisque la première troupe de danse sera composée de tous ces nobles, des meilleurs éléments de la noblesse, ceux qui paraissent sur la scène. Et évidemment, en premier lieu, le roi lui-même. Alors, on va danser dans les comédies-ballets, dans les opéras-ballets, et on va continuer à perpétuer les ballets de cour. Alors, les ballets de cour ne datent pas de Louis XIV. Ils étaient présents avant. On dit que le premier, c'est le ballet comique de la reine qui a été donné sous Henri III pour fêter un mariage et qui avait été chorégraphié par Balthazar de Beaujoyeuse. Par la suite, le ballet de cour est devenu une tradition. Alors, sous Henri IV, il y en a eu tout le temps. C'était vraiment quelque chose qui était courant. Qu'est-ce qu'un ballet de cour ? C'est un spectacle qui va réunir un chorégraphe, un compositeur, un poète, des danseurs, des chanteurs, des instrumentistes. Parce que c'est une époque où on cherche à réunir les arts.
Voilà.
On cherche à les associer parce qu'ils ont atteint un très haut niveau. Et donc, on cherche à faire des spectacles où tout est réuni.
Oui, et puis avec toujours la tendance, le but et le défi du spectacle total, finalement.
Tout à fait, exactement.
On va tenter
entre Molière, Corneille et tant d'autres.
Voilà, oui. Et leur collaboration avec Lully, bien sûr. Voilà. Alors, ces ballets de cour sont des suites de ce qu'on appelle des entrées. Alors, les entrées, ce sont des petits tableaux où chaque danseur va faire la démonstration de son talent. Alors, dans un ballet de cour, il y a toujours une thématique. Il y a une idée, une thématique qui sert un petit peu de fil conducteur. Or, les thématiques sont multiples. Hein. On peut tout trouver. Autant vous dire aussi que les thématiques mythologiques sont très à la mode, entre autres. Et sous Louis XIV, ce ballet de cour, évidemment, va se perpétuer. Mais qui va-t-on mettre en valeur? Bien sûr, les meilleurs danseurs de la cour, mais surtout le roi lui-même, qui est quand même, il faut bien le dire, le meilleur danseur de la cour, qui a travaillé la danse de manière très professionnelle et pour qui on va écrire des chorégraphies. On dira même que finalement, les ballets de cour sont presque composés pour lui. Mmh. Et par le fait de danser, parce que finalement, ce roi a un statut de danseur étoile. C'est incroyable de se dire ça aujourd'hui, mais c'était le cas. Eh bien, par le fait de danser et de danser à un certain niveau de perfection, il incarne lui-même toute une politique pour les arts. Et il est lui-même témoin du niveau qu'ont atteint les arts à son époque. Et évidemment, il se met en scène, il s'impose et... Finalement, la danse, qu'elle soit sur scène ou à la cour, c'est aussi le reflet d'un fonctionnement, d'une monarchie, d'un régime, d'un ordre social. Hein. Ouais. C'est aussi tout ça. Donc c'est une danse qui a un sens politique. D'ailleurs, il y a un film qui montre bien ça. Enfin, je n'ai pas été une grande admiratrice de ce film. Mais enfin, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que il montrait justement cet aspect politique de la danse. Or, le film s'appelait Le Roi Danse, un film de Corbiot qui est sorti il y a déjà longtemps, hein. Ça doit bien faire 20-25 ans. Il y a aussi un téléfilm qui démontre ça aussi, c'est L'Allée du Roi, un téléfilm qui est sorti il y a une vingtaine d'années, qui a été fait par Nina Compagnès, il me semble. Voilà. Alors, qui parle de Madame de Maintenon. Hein. Et on voit le roi danser. Alors... Donc ce roi va incarner la danse et évidemment il va tirer par le haut, c'est-à-dire les nobles vont vouloir danser aussi bien que lui, donc il va favoriser toute une émulation. Voilà, alors après pour bien danser, il y a des critères et il y a des règles. Voilà, si vous voulez, on peut dire quelques mots là-dessus. Bien danser, c'est quoi à l'époque? C'est danser avec grâce, noblesse, aisance, naturel, légèreté, maintien, souplesse. Tout ça, ça s'obtient par le travail. Ouais. Voilà. Alors, le beau naturel...
Avec plus ou moins de talent, d'ailleurs, originel.
Oui, alors bien ça, bien sûr. D'ailleurs, les maîtres à danser distinguent...
Et puis la forme aussi. Hein.
Voilà, les maîtres à danser distinguent les gens qui ont beaucoup de talent. Alors, en général, ces gens-là vont aller plus loin dans leur apprentissage et vont finir dans la danse spectacle. Mais après, il y a la nécessité de former les nobles au bal, c'est déjà bien. Et ça, c'est une base qui déjà se travaille. Alors, on préconise le beau naturel et non pas les préciosités et les afféteries. Et toutes ces qualités que l'on va demander dans la danse sont des qualités qui vont vous servir en société. Hein. La danse va contribuer à faire de vous une personne plaisante à fréquenter, à côtoyer, parce que agréable aussi à regarder.
À regarder et
voilà.
Évoluer.
Et c'est un faire-valoir, finalement, dans une société où on est quand même soucieux de l'apparence. Et où la forme doit valoriser le fond. Hein, il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps. Hein, on travaille les deux. Et quelque part, le travail du corps fait partie du tout éducatif.
Ils avaient bien raison, à mon avis.
Oui, ils avaient raison, oui, quelque part. Voilà. Et c'est vrai que c'était un corps à l'époque qui était très contrôlé.
C'est comme le fond et la forme, le fond et la forme en littérature, c'est intimement lié et indissociable.
Tout à fait. Et c'est une époque où ce corps, on va le travailler, on va le parfaire, on va le magnifier, on va en corriger les défauts, on va corriger les mauvaises posture, on va le valoriser et on va le travailler. Hein. Ouais. Et c'est une danse qui ne déforme pas la nature, comme ça va se passer par la suite et surtout aujourd'hui.
Ça va se passer dans le classique après.
Oui, voilà. Hein. Elle ne déforme pas le corps naturel, mais au contraire, elle part du corps naturel et elle le magnifie, elle le sculpte. Elle le travaille, bien sûr, pour qu'il puisse danser, mais aussi pour lui-même. C'est-à-dire que c'est pas le corps pour la danse, c'est la danse pour le corps, pour le bienfait du corps.
Hein, encore à cette époque. D'après ce qu'on a vu, c'est-à-dire partir du marché pour voler, pour essayer de voler, finalement.
Oui, tout à fait. Alors, le danseur, il s'allège, il va vers l'allègement, hein, parce que ça lui donne de la grâce, de l'élégance. Il monte déjà sur demi-pointe, ce qui se faisait déjà dans la Renaissance italienne, mais pas dans la Renaissance française. Et effectivement, c'est important de se bien présenter. Alors, il y a encore une qualité qui est requise pour bien danser, c'est qu'il faut avoir l'oreille musicale. Hein, et là, elle travaille aussi puisqu'on voit surgir des manuels pratiques pour apprendre aux gens à bien suivre la musique. Alors à l'époque, ils disent danser en mesure, bien écouter la musique et avoir des bons repérages musicaux. Hein. Donc l'oreille est importante parce qu'on dit si vous n'avez pas l'oreille, vous ne danserez jamais bien, ça ne ressemblera absolument à rien. Alors après, les critères vont changer, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle, on va demander au danseur quand même de se valoriser lui-même, hein, de montrer du caractère, de montrer de la personnalité, de ne pas faire de la danse quelque chose d'ennuyeux, hein, parce que c'est vrai que c'est une danse très formelle, mais de lui donner du caractère, de pouvoir s'affirmer, de rendre la danse intéressante. On va lui demander d'être un petit peu créatif, de se mettre en valeur aussi. Alors c'est vrai aussi que les chorégraphies de spectacles qui sont de plus en plus difficiles techniquement permettent aussi à tous ces danseurs de faire la démonstration de leur niveau de technique et de virtuosité, surtout que non, franchement, elles ne sont pas faciles. J'en ai dansé, je peux vous dire que ça demande du travail. Et donc, le XVIIIe siècle va voir monter quand même les valeurs de l'individualisme. Hein. Le danseur doit être valorisé, il doit avoir du succès, il doit être beau, il doit vraiment s'exprimer, il doit se représenter lui-même. Il y a une quête de succès quand même.
Est-ce qu'il y a une part d'improvisation ?
Non, justement. Pas du tout. C'est une danse totalement écrite, précise, fixée. C'est très mathématique, il y a des géométries au sol qui sont très très précises. D'accord. Et donc c'est vraiment une danse contrôlée, hein, entièrement contrôlée, tout comme le corps est très contrôlé à cette époque-là. Alors on peut aussi se poser quelques questions, parce qu'effectivement cette aisance qu'il demande, cette liberté dans le mouvement, cet allègement, est-ce que c'était finalement compatible avec les costumes et les vêtements qu'il portait ? Ça, c'est une question qu'on peut poser. Hein, parce que ce soit pour les bals de cour ou pour la scène, les vêtements et les costumes qui étaient somptueux, avec des très belles matières, avec des superpositions d'éléments, étaient quand même lourds. Hein. En plus, les hommes portaient des grands chapeaux, des perruques. Les femmes avaient plein d'accessoires, elles avaient des rubans, elles avaient des bijoux. Et tout ce monde-là dansait avec des chaussures à talons. Donc on se dit que ça ne devait pas être facile pour eux. Ouais. Et on en arrive à regretter même que ces vêtements qui sont très beaux et qui magnifient tout, masque finalement un peu trop les corps quand même, et masque le mouvement, notamment les mouvements de pieds chez les femmes, que l'on ne voit pas parce que les jupes sont très longues. Et c'est fort dommage, parce que la géométrie qui est tracée par les pieds au sol, c'est une petite œuvre d'art, hein, c'est du dessin, et c'est dommage qu'on les voit pas, quoi, voilà. Parce que c'est recouvert par les jupes. Par contre, pour les hommes, effectivement, ça se voit.
Mais les jambes sont avec des bas, simplement.
C'est ça. Et de fait, ce qui est intéressant aussi à cette époque-là, c'est qu'il y a un vocabulaire commun aux hommes et aux femmes, tout comme à la Renaissance. Hein. Ils dansent exactement les mêmes pas. Mais on se rend compte que quand on va aller sur la composition de danse pour le spectacle, eh bien, les chorégraphes qui déploient toute leur imagination, leur inventivité, qui font de l'art, hein, les chorégraphes quand même différencient, ne chorégraphient pas tout à fait la même chose pour les hommes et pour les femmes. On se rend compte que, par exemple, les hommes font des choses comme ils font plus de sauts, ils battent les entrechats, ce qui est quand même un exercice de bravoure. Ils font des figures que les femmes font moins. Je dis pas qu'elles les font pas, mais elles les font quand même beaucoup moins. Alors, on va quand même, la danse de scène, on va vers une différenciation des genres quand même, hein, sur les chorégraphies. Ça, c'est certain. Alors, j'aurais voulu parler peut-être aussi, si ça peut intéresser les auditeurs, de la place de la danse dans l'éducation. Oui. Parce que ça me semble un peu incontournable. Alors, évidemment, elle est préconisée parce qu'elle permet l'activité physique. Elle favorise l'assouplissement, le renforcement musculaire, elle corrige les mauvaises postures et elle favorise aussi la transpiration, ce qui est quand même important sur le plan médical, et la bonne digestion des aliments. Donc elle a un rôle médical aussi, hein. Elle est bonne pour le corps, on se préoccupe beaucoup de la santé. De plus, la noblesse masculine, sous Louis XIV, est quand même une noblesse dont le corps est quand même mis à l'épreuve. Hein. Elle monte à cheval, elle pratique les arts équestres, elle va à la chasse, elle fait la guerre, elle tire l'épée, elle pratique les arts martiaux. Elle est, pour le coup, très physique. Ouais. Et les corps nécessitent une préparation, un placement, un entraînement. Et là, pour ça, la danse est très bien indiquée. Alors, il faut savoir que la danse est enseignée dans les collèges de jésuites, aux garçons, qui font des spectacles, qui font des ballets de spectacles. Et notamment, Beauchamp y a enseigné, ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Il a enseigné en collège de jésuites et il a chorégraphié. Donc, c'était pas de la pratique de divertissement, c'était vraiment du travail très très sérieux. Alors ensuite, la danse a des vertus pour le mental aussi. Ça rend plus vertueux, ça rend obéissant, la danse. Ça rend discipliné. Ça nous oblige à nous contrôler, à nous perfectionner. C'est actif, ça nous oblige à nous bouger quand même. Hein. Surtout, c'est pour les femmes qui, elles, auraient plutôt tendance à être un peu statiques, à prôner le coin de feu et les travaux d'aiguille. Et donc, pour elles, c'est quand même très bon de se mettre aussi en mouvement. La danse s'oppose à l'oisiveté. Hein. C'est un bon moyen de lutter contre la paresse, la lascivité, la mollesse. Hein. C'est une manière de se rendre actif. De travailler finalement. Hein. Et donc tout ça se fait sous la houlette du maître à danser qui devient un véritable éducateur, hein, parce que il remet aussi les squelettes en place, si vous voulez, il corrige les défauts corporels au passage et il apprend les bonnes manières. Voilà. Alors, la danse... Donc, dans l'éducation, c'est un incontournable et juste à titre de détail, le maître à danser du roi était mieux payé que le professeur d'écriture, quand même. Hein. Ah donc, oui. C'est dire la place que, et l'importance que ça avait. Et donc, voilà, c'est important. Alors, la pratique des arts est importante pour la formation de la noblesse. Mais disons que la danse a vraiment un rôle politique et social important. Alors, les maîtres à danser, si vous voulez, on peut dire deux mots sur cette catégorie. Alors, ce sont des maîtres issus d'une corporation très ancienne qui s'appelait la Ménestrandise, une corporation qui regroupait les danseurs et les musiciens.
Ça s'appelle comment, vous dites ?
La Ménestrandise.
Ménestrandise. Voilà.
Et une corporation très ancienne qui a ses règles d'admission, ses règles de fonctionnement et dans laquelle les artistes y sont plus ou moins polyvalents. C'est-à-dire qu'on peut y enseigner à la fois la musique, la danse, etc. Et évidemment, la création de l'Académie royale va un petit peu faire de mal à cette corporation parce qu'ils vont voir dans la création de cette académie une forme d'autorité qui va un petit peu se substituer à eux. Alors l'Académie royale Pareil, il y a des membres élus, il y a des règles d'admission. Et le rôle de l'Académie royale, c'est de former les meilleurs danseurs possibles pour aller dans les spectacles de la cour. C'est aussi de former les maîtres à danser pour qu'ils puissent conserver et perpétuer une tradition dont on a fixé les règles et les critères. Elle contrôle également la création. Hein, puisque toute nouvelle danse doit être examinée par l'Académie pour voir si elle est bien, elle est bien dans les règles, etc. C'est une Académie qui conserve et qui perfectionne. Alors, à sa création, elle est contestée par la corporation qui dit que, mais finalement, on n'a pas besoin de conserver et de perfectionner la tradition parce que nous, nous le faisons déjà, depuis déjà longtemps. Et puis, ils contestent aussi le fait que ils contestent les nominations aussi. Alors, c'est vrai que les premiers académiciens sont les maîtres à danser des femmes de la famille royale. Or déjà c'est un peu contesté, et puis après il y a aussi le fait que ces académiciens ne sont pas les plus âgés dans la profession. Alors c'est une époque où la personne la plus âgée qui est censée avoir le plus d'expérience est un peu prioritaire, et là on ne prend pas forcément parmi les académiciens les maîtres à danser les plus âgés. Donc vous voyez, il y a une petite polémique. Alors après, cette Académie royale, elle va se transformer en Académie de l'Opéra. Et on va créer évidemment les troupes de danseurs qui vont être ordonnées par ordonnance royale en 1713, auxquelles on va rajouter des effectifs de figurants, de coryphées, etc. Donc là, on est vraiment dans la pleine professionnalisation de la danse. Il faudra 4 générations depuis Beauchamp jusqu'à Nevers pour avoir des danseurs vraiment de très haut niveau dont on va parler dans toute l'Europe. Alors je cite quelques noms. Au XVIIIe siècle, tout le monde connaît Anne de Camargo, Marie Salé, Jean Ballon, le très célèbre Dupré. Ce sont des danseurs qui dansent à Paris, mais après qui s'exportent. Tandis que les maîtres à danser français,
à l'étranger,
tout à fait, ils dansent sur d'autres scènes, dans d'autres capitales que Paris, et les maîtres à danser français vont être très demandés partout. Ils vont s'exporter, il y en a qui vont enseigner à Madrid, d'autres à Londres, d'autres en Hollande, la Russie est très demandeuse aussi, la Pologne. Donc la danse française va vraiment se propager après cette professionnalisation et ce perfectionnement. Voilà. Alors, les maîtres à danser seront petit à petit absorbés par l'Académie ou bien deviendront profession libérale. Alors, à Paris, on ouvre plein de cours de danse au XVIIIe siècle avec une petite pancarte où il y a écrit « Séant, on montre à danser ». Dont le maître à danser travaille avec une pochette qui est un petit violon de poche qui lui sert à accompagner les cours. Alors, ces pochettes, on peut encore en trouver au musée des instruments. Et puis, parfois, les cours de danse sont accompagnés par des petits ensembles instrumentaux. Voilà. Donc, on pourrait écouter, peut-être, si nous avons le temps, un extrait célèbre.
Oui.
Alors, vous venez d'entendre un tube de la danse baroque, c'est la Pasakai d'Armide, qui est un opéra, de Lully, évidemment, personnage central dans la vie culturelle sous Louis XIV. Voilà. Ouais. Alors, je dirais juste un mot sur les interprètes. Alors ça, c'est assez intéressant. Que ce soit pour la Pasakai que nous venons d'écouter ou que ce soit pour l'extrait précédent, qui était les caractères de la danse. Les interprètes sont des musiciens baroques qui ont été réunis par Antoine Geoffroy de Chaume, qui en a été un petit peu le coordinateur et le directeur. Alors Antoine Geoffroy de Chaume, je tiens à parler de ce personnage qui a été précurseur dans toutes les recherches sur la musique baroque, Clavecinis, qui a laissé des ouvrages et qui a fait un énorme travail de recherche bien avant la vague baroque que nous connaissons aujourd'hui. Et quant à à Francine Lancelot, qui a contribué à faire cet enregistrement, eh bien, il faut quand même parler d'elle parce que c'est la chorégraphe et chercheuse française qui nous a retrouvé toutes ces danses, qui a fait un travail de recherche phénoménal pendant les années 70, qui a redonné vie à ces danses, qui a déchiffré ces grimoires que sont les manuels avec la notation chorégraphique et qui les a fait revivre au début des années 80 et à qui on doit évidemment toute cette redécouverte.
Très bien. Eh bien, écoutez, grand merci Sylvie Nicéphore pour votre science vraiment de la danse et de la musique. J'espère que les auditeurs ont apprécié parce que vraiment c'est un très gros travail, mais qui vous est naturel puisque vous vivez ça tous les jours.
Alors c'est une danse que je pratique depuis très longtemps. J'ai bien connu Francine Lancelot d'ailleurs.
Eh bien, grand merci à vous. Donc, j'ai une petite annonce à faire, plutôt une grande annonce à faire. Figurez-vous qui me concerne tout spécialement. Je dédicacerai le livre Bataclan, histoire d'une salle, le samedi 21 février de 16h à 19h, c'est-à-dire pas le samedi là, mais le prochain, le samedi en 8, au café Bataclan, qui s'appelle maintenant le restaurant Diletto. C'est 50 boulevard Voltaire. Donc tout ce que vous voulez savoir sur le Bataclan, et Dieu sait si on raconte des bêtises à ce sujet important, vous le trouvez dans ce bouquin que je dédicacerai donc le 21 février, samedi, de 16h à 19h. Je vous remercie et merci encore à Sylvie Nicéphore.
Merci également à vous.
Vous venez d'entendre Anthologie de la création dirigée par Daniel Abrecant, diffusée en direct sur Radio Courtoisie jeudi 12 février 2026 de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.